France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Pizza, steak végé, pâtes toutes prêtes, manger des aliments déjà transformés affecte notre santé, et ce en quelques semaines seulement. Conclusion d'une vaste étude coordonnée par un chercheur français, on vous la détaille dans un instant. Les syndicats qui restent à l'écart du mouvement Bloquons tout du 10 septembre, la mobilisation générale est fixée pour eux au 18. Nous serons aussi à Marseille avant la rentrée à l'Estac, 2 mois après les incendies. À 13h30, l'Amérique des 100 grades sous la plume de l'écrivain Jean-Michel. Il publie « Nous, les moches », histoire d'amitié, de musique. Ces Américains que l'on collait mal, nous, Français. Il va nous y aider. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Virginie Troussier et la surfréquentation de nos montagnes. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La romancière Marie-Hélène Lafon demande les frères Jacques à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme d'un 13-14 une nouvelle fois perturbé par la grève à Radio France. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ne mangez que chez McDonald's pendant un mois, éprouver les dégâts sur sa santé, c'était il y a près de 10 ans le propos du film documentaire Super Size Me. Son réalisateur avait pris 13 kilos et frôlé la crise cardiaque. On ne découvre donc pas que la nourriture ultra transformée est mauvaise pour notre santé, mais l'étude que vient de réaliser une équipe de chercheurs internationaux va beaucoup plus loin. Bonjour Paul Tillier.
Bonjour Jérôme.
Car elle a mesuré l'impact au jour le jour de ces aliments sur notre organisme.
Oui, et là on ne parle pas uniquement de votre Big Mac, Jérôme. Les céréales du petit-déj, le jambon, les steaks végétaux bousculent nos organismes. Pour cette étude, les chercheurs ont sélectionné 2 groupes d'hommes. Le premier se nourrit d'aliments ultra transformés, l'autre mange sainement. Puis on inverse les rôles et le constat est alarmant. En seulement 3 semaines, 1 kg de graisse en plus, du cholestérol, des problèmes cardiovasculaires et des spermatozoïdes altérés, constate Romain Barès, directeur de recherche au CNRS. Il a mené cette étude.
D'avoir autant d'effets sur tout un tas de systèmes cardio-métaboliques, reproducteurs, nous a particulièrement étonnés. On a trouvé un polluant qui est un métabolite d'un phtalate que l'on trouve dans des plastiques après consommation d'alimentation ultra-transformée.
On observe également une chute de la testostérone. Le point positif, c'est que les effets néfastes de ces aliments ultra-transformés sur la fertilité masculine s'estompent aussi rapidement qu'ils surviennent.
Autant la consommation chronique d'aliments ultra-transformés est sans doute très délétère pour la santé, autant un passage à une alimentation non transformée fait assez vite améliorer tout un tas de marqueurs de la santé.
Les aliments ultra transformés sont donc à éviter, encore faut-il savoir les reconnaître. 8 aliments sur 10 vendus dans nos supermarchés sont ultra transformés. Romain Barès milite pour un meilleur étiquetage en magasin afin de compléter le Nutri-Score.
Merci Paul Tillier. Au rayon consommation, mais côté prix cette fois, les prix n'ont augmenté que de 0,9% au mois d'août et sur un an. Faut-il se mobiliser le mercredi 10 septembre avec les partisans du mouvement Bloquons tout. Ce matin, les syndicats ont préféré une autre date pour leur journée de mobilisation intersyndicale contre le projet de budget du gouvernement. Ce sera le jeudi 18 septembre, même si Alexis Morel, François Bayrou pourraient être renversés d'ici là.
Oui, à la sortie de ces 2 heures de réunion à huis clos, les numéros 1 des centrales le reconnaissent eux-mêmes. Pas de consensus entre eux sur le mouvement du 10. Ils font le choix d'une autre date, car il ne faut pas tout mélanger, selon François Omeril de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Nous, notre rôle, c'est d'appeler à manifester, mais à la condition qu'on soit capable d'organiser des revendications précises, parce qu'il faut que ça se prépare aussi une manifestation. Nous, on ne s'associe pas à la CFE-CGC à la manifestation du 10, parce que ces objectifs sont très nébuleux et par ailleurs, ces propositions sont très baroques. Il y a dedans la suppression des syndicats, par exemple.
L'intersyndicale donne donc rendez-vous dans 3 semaines, même si à ce moment-là, il n'y aura peut-être plus de gouvernement, donc de projet de budget contre lequel mobiliser dans la rue. L'essentiel n'est pas là pour la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet.
Nous sommes pas dupes des manœuvres de diversion d'Emmanuel Macron et de François Bayrou qui, pour éviter d'avoir à changer le budget et d'avoir à changer de politique, préfèrent faire sauter le Premier ministre. Nous, ce que nous disons ici, ensemble, l'ensemble des organisations syndicales, c'est que le problème des travailleurs et des travailleuses, c'est pas le casting, c'est le contenu du budget.
Et il n'est pas trop tard, clament ces organisations syndicales, pour construire, je cite, un tout autre budget, porteur d'espoir, de justice sociale et fiscale.
Le Premier ministre qui pense toujours qu'il peut sauver sa peau, il dit vouloir négocier avec les partis. Marine Le Pen et Jordan Bardella disent oui pour le Rassemblement National. Ils seront reçus mardi mardi prochain, même s'ils ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre la confiance. François Bayrou, rattrapé ce matin par le contexte politique à la foire de Châlons-en-Champagne qu'il inaugurait. Reportage Colline Mollard.
Avant de couper le ruban de l'inauguration, François Bayrou prend la parole au micro. Le discours est le même. Depuis trois jours, il répète la gravité de la situation financière.
Nous sommes sur un bateau. Il y a une voie d'eau sous la ligne de flottaison. Il y a de l'eau qui entre dans la cale. La responsabilité, c'est de s'attaquer à cette question-là.
Mais une fois dans la foule, à la rencontre des exposants, le Premier ministre botte en touche sur le sujet. Il est interpellé par la FDSEA et les jeunes agriculteurs.
Monsieur le Premier ministre, il va falloir prendre des vrais engagements. Il va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on ait un vrai cap, il va falloir qu'on ait une visibilité sur ce qu'on veut, avec de la rentabilité.
Par les viticulteurs aussi, sur les taxes vers les États-Unis. Mais à quoi bon interpeller un gouvernement qui risque de tomber, soupire David Chatillon, président de l'Union des Maisons de Champagne.
S'il faut recommencer, on recommencera. Ça nous dépite, parce qu'en réalité, dans cette période d'incertitude politique, les dossiers ne peuvent pas avancer. Et donc, c'est préjudiciable pour nous et pour le pays et pour l'ensemble des secteurs d'activité, c'est sûr.
François Bayrou n'échappe tout de même pas à quelques commentaires de la part de certains visiteurs à propos du vote de confiance le 8 septembre.
Venez bordel avec vous et vous allez réussir.
Commentaire auquel le Premier ministre préfère ne pas réagir.
Colline Mollard avec les moyens techniques de Benjamin Reyes, alors qu'on a appris ce matin la mort d'un ancien ministre, Olivier Stirn, qui fut dans le gouvernement de Jacques Chirac. Il avait 89 ans, il fut aussi maire de Vire en Normandie. Le président de la République, lui, présidait ce matin un conseil des ministres franco-allemands à Toulon, l'Allemagne, où le taux de chômage a dépassé au mois d'août la barre des 3 millions. C'est une première depuis 10 ans. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce ce matin avoir ramené les corps de deux otages à Gaza. Israël et les États-Unis qui ont obtenu gain de cause auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque les casques bleus présents dans le sud du Liban depuis 1978 vont bien plier bagages, mais dans 2 ans seulement. Ils sont 10 000 en ce moment, dont près de 700 soldats français. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
Pourquoi ce départ et quels en sont les risques ?
Écoutez, pour deux raisons principales. D'abord libanaise, le Hezbollah était considérablement affaibli dans le sud du pays et les nouvelles têtes de l'exécutif à Beyrouth, c'est-à-dire le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam, ont fait du monopole des armes par l'État la priorité de leur action. Ils doivent d'ailleurs proposer prochainement un plan de désarmement du Hezbollah et sur le terrain, l'armée libanaise s'est déployée dans le sud jusqu'à la frontière israélienne. L'autre raison, Jérôme, est diplomatique. Les États-Unis poussaient carrément au non-renouvellement du mandat de la FINUL, et ce dès le 31 août prochain et à sa démobilisation dans la foulée. Craignant un veto de Washington, la France a finalement obtenu à l'unanimité du Conseil de sécurité un délai d'une année supplémentaire. La fin de la FINUL est aussi un pari avec forcément des risques. Si d'ici un an, le Hezbollah ne désarme pas, si l'armée libanaise n'est pas assez robuste pour s'imposer sur le terrain, sans parler d'actions hostiles d'Israël, dans tous les cas, souligne un diplomate français, la FINUL n'avait pas vocation à durer éternellement.
Précision signée Christian chez nous.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le ministère de la Justice va-t-il fermer la prison pour mineurs de Marseille ? Fermeture au moins partielle demandée par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Les garçons âgés de 13 à 18 ans qui y sont détenus et souvent impliqués dans des trafics de drogue vivent, écrit-elle, dans des conditions déplorables, parfois enfermés dans des pièces, sans chaise et sans toilette, dormant sur des morceaux de mousse sans drap. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Qu'en dit le ministère ?
D'abord que cette pratique de la mise en grille dans une petite pièce vide, c'est terminé. Cela permettait de séparer les mineurs lors d'incidents faute de salles d'attente, explique le ministre. Des matelas neufs ont été livrés, du pain frais sera distribué le matin, les ados se plaignaient d'avoir faim. De nouveaux travaux sont prévus, ce qui entraînera de fait une petite fermeture partielle. Mais le ministre souligne l'importance des dégradations commises par les mineurs. 73 robinets arrachés en 3 mois, par exemple, pour une soixantaine de détenus. Le cœur du problème, c'est le manque de personnel. Postes vacants, arrêt maladie, le ministre mise sur le renforcement de l'équipe de direction, la formation et l'accompagnement des agents. Il estime aussi que l'architecture de ces prisons pour mineurs, il y en a 7 construites au milieu des années 2000, n'est plus adaptée. La contrôleure a constaté que les jeunes passaient leur temps à crier aux fenêtres. Les insultes échangées peuvent se prolonger par des bagarres en promenade. Gérald Darmanin saisit l'inspection générale de la justice, les directeurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le binôme surveillant-éducateur, se rendront sur place la semaine prochaine.
Sarah Guibaudot, la prison de Vendin-le-Vieil dans dans le Pas-de-Calais, où sont regroupés les détenus les plus dangereux liés au trafic de drogue. Cette prison a connu une nouvelle nuit de protestation la nuit dernière. Les détenus du quartier de haute sécurité ont délibérément inondé leurs cellules. Hier soir, ils contestent leur transfert dans cet établissement, ainsi que leurs conditions de détention. En Corse, la soirée a été mouvementée avec des orages et de forts coups de vent jusqu'à 158 km/h, enregistrés près de 800 impacts de foudre dans l'île. Venons-en à la rentrée des profs et des personnels de l'éducation nationale. Ce matin, ils sont 850 000 à rentrer. Nous serons dans un lycée de l'Eure dans un instant. Mais avant cela, allons à Marseille. Les quartiers nord, on s'en souvient, ont vécu le grand incendie de début juillet. Alors la rentrée y est très particulière. Par exemple, pour Gabrielle, institutrice, sa maison a brûlé le 8 juillet. Raphaël Benabdelmoumen l'a accompagnée ce matin.
Bonjour.
Cette année, la pré-rentrée de Gabrielle commence par un trajet en bus.
J'ai plus de voiture, elle a brûlé dans l'incendie du 8 juillet à l'Estac. Et les assurances traînant, on n'a toujours pas été indemnisés. Donc j'ai pas pu me racheter un nouveau véhicule pour l'instant. Donc ma rentrée, elle est en bus. Et puis on va terminer à pied, là, on va prendre la montée.
Au revoir Mathieu.
Ça fait du bien de retourner à l'école parce que ça va me permettre de penser à autre chose. C'est au moins 8 heures dans ma journée où je suis pas au téléphone avec des assurances, avec des experts, à éplucher des petites annonces.
Car l'institutrice a aussi perdu sa maison, en partie brûlée dans l'incendie. Avec son compagnon et son bébé de 9 mois, ils sont logés chez un ami jusqu'à fin septembre. Après, ils n'ont pas encore trouvé de solution. Bref, les vacances n'ont pas vraiment été de tout repos.
Je démarre fatiguée, sachant que j'ai dû préparer la rentrée, là, mais j'ai pas mon bureau, j'ai pas mon matériel, parce que mes affaires étaient dans notre maison qui a brûlé. J'ai dû tout recréer et repartir tout à la base. Ouais.
Tourner la page, c'est ce qu'espère Gabrielle en cette rentrée, entourée aujourd'hui de ses collègues.
Bonjour.
Et dès lundi, de ses futurs élèves.
Là, la rentrée s'est faite de manière plus sereine. Lycée Jean Moulin, aux Andelys, dans l'heure où se trouve notre spécialiste éducation, Sonia Princé. Ils étaient 73 professeurs ce matin.
Et même un professeur de plus à la dernière minute, puisque Louis est arrivé ce matin sur un poste qui était encore vacant. À 58 ans, il est en reconversion et enseignera en filière professionnelle.
Pour moi, c'est une première. Je viens de l'industrie, donc première journée, totalement.
8 nouveaux enseignants arrivent dans l'établissement. Lucas n'a que 22 ans.
Je suis là en première année en tant que contractuel, pour l'instant. J'ai déjà bien préparé, on va dire, les cours. Ils sont tous prêts. Franchement, voilà. Nouvelle vie qui commence, entre guillemets.
Les professeurs sont bien accueillis. Ils ont découvert leurs emplois du temps préparés par Guy, le conseiller principal d'éducation, qui sera à la retraite à partir de lundi, après plus de 40 ans dans l'éducation nationale.
Ça me paraît logique que je sois là jusqu'à là, quoi. Et surtout qu'il y avait du boulot, quoi, et j'ai pas de remplaçant en plus.
Et donc là, c'est votre dernier jour?
Ouais, dernier jour. Ah, ça commence à me faire bizarre, ouais. Jusqu'à l'heure, ça allait bien, et puis là, ce matin, c'est émouvant, quoi.
Pour Martine, ce sera aussi la dernière rentrée.
J'ai pas trop envie parce que j'adore ce métier et c'est une grande partie de ma vie. Une fois à la sortie d'une école, il y avait une maman qui me dit « Vous avez combien d'enfants ?» Et je lui réponds « 150 ». Et elle me dit « Ah bon ?» Je lui dis « Non, en fait, j'ai 2 enfants et 150 élèves ».
Et cette année, cette professeure d'histoire-géographie aura une centaine d'enfants, enfin d'élèves, et elle a prévu plusieurs voyages scolaires.
150 enfants, ça fait beaucoup. Reportage Sonia Princé, le temps.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Vous êtes venu avec le menu du jour, fraîcheur, vent, pluie et orage.
Oui, une météo au goût d'automne aujourd'hui, avec un front pluvieux et orageux en train de traverser le pays. Il donne des pluies parfois soutenues et ce front se décale cet après-midi vers le flanc est tout en faiblissant. Ces pluies laissent place par l'ouest à une masse d'air très instable, avec de fréquentes averses orageuses et seul le pourtour méditerranéen reste à peu près à l'écart, avec seulement quelques ondées éparses. Les cumuls de pluie seront localement copieux, notamment dans le sud-ouest. Des courants d'ouest puissants ont repris la main sur le pays. On attend partout des rafales de l'ordre de 50 à 70 km/h jusqu'à 70-90 entre la Côte d'Azur et la Corse. On surveille d'ailleurs de nouveau des orages ce soir sur l'ouest de l'île. Ils seront nettement moins violents qu'hier. Et les températures poursuivent leur baisse aujourd'hui avec 18 à 29 de la Manche à la Corse.
Merci Olivier Proust, Météo France. On va se retrouver à partir de 13h30 pour la suite de ce 13-14 avec notre invité, l'écrivain Jean Michelin.
Demain sur France Inter, Thierry Breton dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Il a tenu les commandes à Bercy comme à Bruxelles. Alors question sur notre avenir économique, les droits de douane américains et maintenant, peut-on se payer une nouvelle crise politique?
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France contre la stratégie éditoriale et les réformes menées par la direction dans un contexte d'économie, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Your girl, you showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. Put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like a fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is best.
Inter.
J'écris un aller simple sans retour. Baby, tu me retiens quand je cours.
vent, ça pas de géant. Au loin, j'entends les cris. Perdu dans le néant. Le chemin est si long. J'avance à pas de géant. Au loin, j'entends les cris. Perdu dans le néant. Mais la route est longue. Le temps m'a pris de court. Je n'ai plus le temps de crier au secours. Mais la route est longue. Le temps m'a pris de court. Je n'ai plus le temps de crier au secours. Le temps m'a pris de court.
France Inter, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
La suite de ce 13-14 avec notre invité. Bonjour Jean Michelin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de votre deuxième roman, Nous les Moches, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Il vient de paraître. C'est un récit qui nous entraîne aux États-Unis, l'Amérique des losers, en quelque sorte, de cette classe moyenne appauvrie. L'histoire d'une bande de copains. Ils sont quatre ados à former un groupe de musique de trash metal. Précisément, nous sommes à Norfolk, sur la côte est des États-Unis. Et ces quatre amis vont se retrouver 25 ans après et partir, en tout cas pour trois d'entre eux, dans une traversée du pays d'est en ouest à la recherche de leur jeunesse et à la découverte d'un pays qu'ils ne connaissent pas, au fond, entre des bars miteux et des motels dégueulasses, tels que vous savez si bien les décrire. C'est l'occasion pour vous de présenter cette Amérique avec ses gueules, avec cette colère, avec cette fatigue. Aussi, colère et fatigue, ce sont deux mots qui reviennent beaucoup sous votre plume, les États-Unis que vous connaissez, puisqu'en tant que militaire, vous y avez servi pendant 3 ans, non pas dans l'armée américaine, mais au siège de l'OTAN, dans cette même ville de Norfolk, là où se déroule cette action. 0145 24 7000 pour les auditeurs lecteurs qui vous connaissent déjà ou qui voudraient échanger avec vous pour mieux vous connaître. Vous passez également via l'application France Inter et Radio France pour vos messages. Je voudrais qu'on se mette tout de suite, Jean Michelin, dans l'ambiance du livre, puisqu'il est beaucoup question de musique. Il y a une bande son dans laquelle on trouve ce titre. Sister, we're not gonna take it. On a beaucoup de titres dans cet esprit. Est-ce que c'est une intro à la batterie que vous savez jouer? Parce que je crois que vous êtes batteur vous-même.
Je suis batteur moi-même. Et
vous l'avez joué?
C'est une intro que j'ai jouée. Alors j'ai jamais joué le morceau, mais ça fait partie un peu des figures obligées, quoi. C'est We're not gonna take it, c'est comme Sunday Bloody Sunday, c'est des rites de passage pour un batteur.
Pourquoi est-ce que la musique est aussi importante dans la vie de ces Américains-là?
Bon, moi j'ai écrit sur la musique parce que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, parce que c'est un sujet riche en obsessions et parce que je trouve qu'il y a, une vraie continuité dans la musique, dans le métal américain, sur la colère des gens qui sont en marge de la pauvreté ou dans le bas de la classe moyenne, selon comment vous voulez les appeler, et qui sont devenus les personnages du livre. Et donc faire croiser l'expression de cette colère-là sur cet espace-là dans une époque contemporaine, C'était intéressant, mais c'est en fait des points d'ancrage pour construire une trame narrative et raconter une histoire.
Nous, les moches, qui sont ces moches dont vous faites quasiment un groupe social? Il y a vos personnages, mais ils croisent leurs semblables dans d'autres états des États-Unis, pays qu'ils vont traverser.
Alors, je ne sais pas s'ils croisent leurs semblables, parce que y a une diversité sociale, culturelle, qui est très marquée par la géographie aux États-Unis, dont on sous-estime probablement l'immensité vue de l'Europe. Mais ils se reconnaissent dans les gens qu'ils croisent. Parce que, alors, moi, je ne suis pas sociologue. J'ai pas pour ambition de décrire un groupe social. Ce que je sais, c'est que l'Amérique du bas des classes moyennes, l'Amérique qui se sent délaissée...
Celle-là, elle n'est pas qu'à Norfolk.
Elle n'est pas qu'à Norfolk et on la retrouve tout au long des kilomètres dans les petites villes, en dehors des grands axes, que font délibérément le choix de ne pas emprunter les personnages du roman.
Alors, ils ne sont pas riches, on ne peut pas le dire. Ils ne sont pas pauvres non plus. Ils ont un boulot, ils ont de l'argent qui rentre. Ils ne sont pas à la rue, mais en cas d'accident, de pépin, comme on dit, c'est tout de suite très compliqué. Et la vie bascule, c'est ce qui se passe pour l'un de vos héros qui est malade, qui a une tumeur, qui va voir son médecin. Et le médecin lui dit ceci, c'est page 37, ça se soigne. Si vous avez une bonne assurance, il savait très bien que non, évidemment, celle de la boîte couvre les petits bobos. Il aurait fallu avoir 12 ans d'ancienneté et pas 15 jours pour espérer davantage qu'un diagnostic. Il a demandé combien de temps il avait. Le doc a dit un truc vague, genre « c'est difficile à dire, un an ». Peut-être deux, sans traitement, ça peut être 6 mois. Doug a retenu 6 mois, il a lancé le compteur tout de suite. Doug, il n'a pas vraiment le choix, au fond.
Non, il n'a pas vraiment le choix. La protection sociale et en particulier l'assurance maladie aux États-Unis, c'est un énorme sujet de société. Un sujet de société qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui a déjà fait l'objet de très vifs débats à l'époque de Barack Obama quand il était président. Et c'est un sujet qui a aussi déjà été exploré par la fiction. Pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad il y a quelques années, l'histoire de ce professeur de chimie qui devient trafiquant de drogue, ça part du fait qu'il n'a pas les moyens, par son assurance maladie qui est portée par son employeur, de se payer un traitement.
Lui, Doug, il a perdu son boulot parce qu'il arrive en retard ?
Non, il n'a pas perdu son boulot parce qu'il est arrivé en retard. Il a un petit boulot, mais un petit boulot avec une petite assurance maladie dans un système de santé qui coûte extrêmement cher puisque la couverture santé est assurée par des entreprises privées qui sont quand même essentiellement en quête de profit.
Est-ce que c'est l'Amérique de Trump que vous décrivez, Jean Michelin ?
Alors non, je ne décris pas
Trump est très peu présent dans le livre. Il y a juste un moment où l'un des personnages regarde vaguement ce qui se passe au Capitole.
Il fait référence à l'assaut du Capitole qui a eu lieu l'année d'avant. Donc on arrive à peu près à situer le bouquin. En fait, il y a... Alors je ne parle pas du Covid et je ne parle pas de Donald Trump. Son nom n'est jamais cité dans le livre. D'abord parce que je voulais pas le dater parce qu'à mon avis, les tensions sociales qui amènent les personnages de cette histoire là où ils sont, ce sont des tensions, ce sont des phénomènes de temps long qui précèdent et qui ont peut-être favorisé l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016. Et à nouveau en 2024, mais qui sont pas liés à la personnalité du président. En fait, souvent, la phase visible, celle qui est la plus commentée, parce qu'elle est très présente dans les médias, ce n'est que l'expression d'un symptôme, c'est une conséquence. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'interroger les mouvements de fond.
Il y a une grande impression, j'ai trouvé dans votre livre, de vide. Ils ne croient pas en grand-chose, ces personnages. Il y en a un qui ne croit plus en la famille, sa fille parfaite qui rêve de faire des études, qui est sur les réseaux sociaux, ils ne se parlent pas. Sa femme est en dépression. Le travail, les boulots, les petits boulots sans aucun sens qu'on enchaîne, c'est pareil. La politique, on n'en parle pas, ils ne croient pas en la politique. Peut-être en l'amitié, au fond, il reste ça. Et la musique.
Je ne sais même pas s'ils croient en l'amitié, oui, ce sont des personnages qui sont désabusés. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont compris assez tôt que les portes allaient pas s'ouvrir, ce qui est l'un des grands paradoxes de la société américaine et qui est un fondement historique de la colère. En fait, c'est le mensonge du rêve américain, où les opportunités dépendent quand même essentiellement de l'endroit où vous partez. Et donc, transformer ça et exploiter ça, En fait, là-dedans, ce qui reste une fois qu'on a désossé tout ce que la vie n'offrira pas comme perspective, eh ben il reste la musique autour de laquelle ils se sont rencontrés. Il reste le lien qui les unit, mais qui est porté par la musique. Et puis il reste ce que je voulais aussi explorer dans le livre, les blessures, les rêves et les espoirs durables qui sont ceux de la jeunesse, en fait.
Est-ce que ce livre, vous l'avez imaginé assez rapidement lorsque vous avez, je l'ai dit, vécu aux États-Unis pendant 3 ans, vous étiez au commandement de l'OTAN, vous êtes officier de l'armée française. Est-ce que vous avez rencontré des Américains et vous vous êtes dit peut-être, au fond, on les connaît mal, on les connaît peu, et cette Amérique-là, moi, je ne la connais pas, et donc j'ai envie d'écrire sur ce sujet, ou bien c'est venu un petit peu plus tard ?
C'est venu plus tard. Assez classiquement, c'est un pays qui me passionne depuis longtemps, sur lequel j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup échangé avec des Américains de toutes origines sociales. Avant d'être à l'OTAN, j'ai fait ma scolarité de l'école de guerre dans l'équivalent américain, où on rencontre quand même des gens très différents qui viennent de toutes sortes de milieux. Et je pense qu'il a fallu bien quelques années, à la fois pour que le sujet mature dans ma tête, pour que je me dise que j'ai envie d'explorer ça sous le prisme de la narration et sous le prisme du roman, et aussi pour me sentir légitime, parce que c'est pas simple, quand on est un auteur français, de s'emparer d'un continent dans lequel on n'a pas grandi. J'ai pas une connaissance intime des États-Unis.
Ouais, et puis il y a une forte dimension de reportage dans votre livre, je trouve. Voilà, il faut pas raconter n'importe quoi sur ce que sont ces gens.
Il faut pas raconter n'importe quoi sur ce que sont ces gens, et il faut essayer de pas caricaturer l'espace et de pas plaquer des biais, des grilles de lecture, des biais d'analyse d'Européens, toujours chercher à contextualiser. Moi, il y a une année qui a été déterminante dans ma compréhension des États-Unis, c'est l'année que j'ai passée dans le Kansas, parce que c'est vraiment la frontière. Le Missouri, c'est l'endroit où on passe de l'Est à l'Ouest. Et on change en fait de pays, même si les gens sont les mêmes. Voilà. Dans le bouquin, je crois que je dis qu'on passe de la casquette de baseball au chapeau de cow-boy. C'est un petit peu caricatural, parce que je mets ça dans la bouche d'un de mes personnages qui est l'un des narrateurs du livre et qui a un peu le sens de la punchline, mais il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans.
Vous suivez donc vos personnages d'est en ouest, on traverse les États-Unis, ils donnent une série de concerts dans des petits bars. Et ils vont se retrouver dans le Missouri, dans un resto-route, tout près d'une station essence. Et vous décrivez cette scène, c'est le choc des mondes. En fait, ils sont avec leur sandwich. Et là, à côté d'eux, et je vous cite, c'est page 153, un jeune couple arrive. On est au fin fond du Missouri. Peut-être une trentaine d'années, ils sont bien propres, bien habillés, des gens avec qui des mecs comme toi doivent bosser toute la journée. Ils se sont pincés le nez en regardant le menu et ont fini par commander une salade. Une salade, putain, une salade pour deux dans un endroit pareil. J'aurais voulu les prévenir, mais ils auraient rien compris, ils m'auraient pris pour un dingue. Je les ai reluqués du coin de l'œil pendant le repas. On aurait dit qu'ils étaient en excursion. Tu vois, ils avaient un sac à dos avec des gourdes qui pendent, un guide sur les plus belles routes du Midwest, tout ça. D'ailleurs, ils ont dû se tromper de route, parce que clairement, même par beau temps, c'était pas le tronçon le plus spectaculaire du pays. Je termine la citation et je précise que quelques lignes plus loin, des clients du resto qui le quittent leur font un doigt d'honneur lorsque ces deux pensionnaires quittent le restaurant. Ça, c'est l'un des chocs du livre, la confrontation des mondes.
C'est l'un des chocs du livre. Et alors, cette scène-là, elle est directement inspirée de mon expérience personnelle.
Ces choses vues.
En fait, avec ma femme, on venait d'arriver. Je pense qu'on était en Amérique depuis un mois. On est allé à Chicago pour le week-end du 4 juillet. Et on est rentré par la route vers Kansas City. Et puis, on s'est arrêté manger dans une station-service. Et effectivement, on a dû manger une salade ou un truc comme ça. Et il y avait 4 types qui étaient en train de manger des sandwichs de la taille d'une batte de baseball. Et quand on est sorti de la station-service, effectivement, ils étaient en train de partir. Et ils nous ont agonis d'injures et de doigts d'honneur et on n'a pas compris. Et à l'époque, donc ça, je vous dis, c'était en 2015, c'était incompréhensible. Et donc, interroger aujourd'hui avec le recul, ça me semble beaucoup plus clair. Mais c'était il y a 10 ans. Donc oui, c'est sûr que c'est... Voilà, il n'y a pas beaucoup de scènes qui sont directement vécues. Cette scène-là, oui, c'est un emprunt très clair à ma propre expérience.
Mais vous décrivez les frontières américaines et vous expliquez qu'elles sont à l'intérieur même des villes. Je crois qu'à un moment, vous dites, finalement, la frontière, elle est entre peut-être la 38e et la 40e avenue dans chaque ville américaine. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, précisément? Pourquoi est-ce que ça change?
Il y a... J'ai pas d'explication pour ça. Ce que je sais, c'est que très régulièrement, dans les endroits dans lesquels j'ai pu me rendre ou vivre, il y a des blocs, donc des pâtés de maisons, où la contexture sociale change.
Donc avant, c'est bourgeois, et juste après, ou même c'est classe moyenne.
Mais en fait, il y a des quartiers. Ce sont des frontières qui sont pas écrites. Hein, c'est matérialisé par une rue, un feu rouge. Simplement, on change de population, on change d'univers. Alors les historiens, les géographes, les spécialistes du continent américain ont très certainement des explications. J'ai moi-même un peu lu sur le sujet. C'est beaucoup lié à la manière dont les municipalités organisaient les districts de peuplement qui avaient notamment dans le vieux sud américain souvent une contexture raciale très importante, y compris après la fin des lois de ségrégation dans les années 70. Mais aujourd'hui, ce sont des ancrages territoriaux qui demeurent. Et oui, il y a des quartiers. Parfois, ça se joue sur quelques rues dans lesquelles il ne me viendrait pas à l'idée de juger prudent de les traverser à pied le soir, quoi.
Est-ce que ces Américains-là sont toujours attachés à la démocratie, Jean-Michelin? Donald Trump a dit cette semaine, je le cite, « Les Américains aimeraient vivre sous une dictature ».
Alors ça, il faudra interroger les Américains. Je sais pas... Je suis pas capable de répondre à cette question. Ce que je pense, c'est que il y a quand même une mythologie très forte de l'Amérique comme démocratie, mais qui a tendance à être de plus en plus dans le déclaratif. Le modèle intégrateur des États-Unis est resté très fort. Quelques jours avant l'épisode de la station-service, j'avais remarqué que lors de la célébration du 4 juillet à Chicago...
Donc fête nationale.
La fête nationale, les gens les plus enthousiastes, ouais, étaient probablement les immigrés les plus récents, des familles colorées, qui parlaient pas anglais entre elles, et qui étaient couvertes de drapeaux. Donc il y a quand même un modèle d'attraction très fort, et c'est associé à la démocratie. Comment ce truc-là se pratique, c'est une autre question.
Mais des réponses, et on en sait beaucoup plus sur cette Amérique-là que vous nous décrivez dans ce livre, Jean-Michelin, Nous les Moches, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je vous transmets juste le message de Fiona. Je suis libraire, j'ai beaucoup aimé ce roman, à la fois intimiste et offrant une vision juste des États-Unis portée par une écriture fluide et sensible. Merci pour ce message et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. 13h45 sur Inter. On va changer d'ambiance pour le dernier épisode de notre feuilleton, à la découverte cette semaine d'un moyen de transport qui se développe, la voile pour les voyageurs. C'est le cas entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer depuis 5 ans sur un maxi trimaran. Alors notre traversée se termine, le port est en vue et peut-être le cap des 24 000 passagers transportés sur une saison pour la compagnie Les Iliens qui a lancé une campagne de financement pour acheter un deuxième bateau.
Là on va affaler la grand voile. Faites attention à vos... Ouais.
Port de saison du sauna en entrée.
Ok, très bien, merci.
Ça vous a plu la traversée à la voile?
Oui, très bien.
C'était sympa, oui.
Par rapport aux ferries traditionnelles?
Ben, ça remplace pas, c'est différent, mais c'est très sympa.
Pourquoi vous dites ça remplace pas?
Ben parce que ça ne transporte pas les voitures, les camions, mais c'est complémentaire et c'est très bien.
Je vais retrouver Jonas Duvivier, l'un des associés fondateurs de la compagnie Les Iliens. Est-ce que justement vous avez des contacts avec la compagnie de ferry ou avec les gens ici, ils vous voient comment?
Au début, quand on est arrivé avec ce bateau, je pense qu'ils se sont dit « Regardez-les, ça ne va pas marcher, on va bien rigoler, ils vont se casser la gueule ». Et dès la première année, dès la fin de saison, quand on a communiqué sur les chiffres par rapport au nombre de passagers embarqués, on a gagné tout de suite en crédibilité. Et en tout cas, le dialogue est ouvert et existe entre la compagnie Océane et nous. J'aimerais qu'on fasse plus et qu'on puisse éventuellement travailler ensemble et éviter à leur bateau énorme de sortir pour quelques passagers. Un bateau comme ça, on le sait, ça consomme énormément. En été, à la limite, ça peut avoir du sens, hein, puisqu'un bateau comme ça transporte beaucoup de monde. Le problème se pose lorsque le bateau est moins plein. Et nous, ce qu'on aimerait, évidemment, c'est de proposer une solution à la région pour une délégation de service public pour les fois où le ferry est moins plein. Si on était soutenu par la région, on aimerait pouvoir faire construire un bateau qui serait en mesure de sortir également l'hiver.
Alors là, vous avez justement comme projet d'acheter un deuxième bateau, racontez-moi.
Alors là, le projet, effectivement, c'est d'acheter un deuxième bateau, puisque la ligne Quiberon-Sauzon fonctionne à merveille. On a eu envie de développer une nouvelle ligne, Quiberon-Le Palais. On devrait pouvoir l'exploiter dès la saison prochaine, dans un premier temps avec un bateau qu'on pourrait louer si le chantier n'est pas en mesure de nous le livrer dans les temps, ou alors si nous ne sommes pas en mesure de signer les accords d'achat, puisqu'il faut quand même sortir beaucoup d'argent d'un coup. En achetant un deuxième bateau, on aimerait également changer d'échelle. Le bateau qu'on souhaiterait faire construire permettrait d'embarquer plus de monde, et ce changement d'échelle pourrait rendre le projet plus rentable. Mais ça reste un pari. La première saison, qu'on a vécu comme un succès, nous avons transporté 15 000 passagers. Donc c'était en 2021. Chaque saison qui passe, on progresse et on transporte plus de monde. Donc on peut espérer, si la saison continue à se passer à merveille comme on le vit en ce moment, on peut espérer dépasser les 24 000 passagers. Ça serait vraiment formidable. Et là, pour le coup, ça serait une entreprise très rentable pour l'exercice 2025.
Bienvenue à vous dans le charmant port de Sauzon. Bienvenue à Belle-Île. On espère que vous allez apprécier le trajet. On ne va pas tarder à accoster. Je vous demanderai de bien rester assis le temps de la manœuvre, surtout sur la partie droite du navire, la partie tribord. Excellent après-midi ou excellent séjour pour celles et ceux qui restent plus longtemps.
Feuilleton signé Sarah Guibaudot que vous retrouvez sur l'application Radio France.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Bonjour Virginie.
Bonjour Jérôme.
Journaliste, écrivaine, on aura le plaisir de vous accueillir à ce micro chaque vendredi. On va commencer par la montagne aujourd'hui, puisque débute ce soir l'épreuve reine de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Au total, les différentes courses accueillent cette année près de 10 000 participants et ça pose la question de l'affluence toujours plus grande sur nos sommets.
Début août, Jérôme, j'étais au festival du film alpin des Diablerets dans les Alpes vaudoises en Suisse. J'y ai découvert un film intitulé « Le futur de l'escalade » du réalisateur français Guillaume Broust, qui a déclenché plusieurs discussions à la fin de la projection. L'objectif du film étant d'alerter sur la fragilité des milieux naturels menacés par l'hyperfréquentation. Alors cette inquiétude n'est pas nouvelle. Franz Schreder, cartographe des Pyrénées du début du XXe siècle, écrivait « Quand la montagne vous a pris le cœur, tout vient d'elle et tout vous y ramène ». Mais il ajoutait également, visionnaire, « Il suffit que les hommes viennent un peu plus nombreux admirer la nature pour qu'aussitôt apparaissent destruction, hideuse mise en valeur et ruine ». Schreder appelait déjà à protéger les massifs et plus d'un siècle plus tard, son avertissement est plus que jamais actuel.
Et cette surfréquentation concerne aujourd'hui de nombreux sites dans notre pays.
Le film de Guillaume Broust nous montre qu'à Fontainebleau, haut lieu mondial du bloc, cette escalade sur des rochers de faible hauteur, la fréquentation dépasse désormais les 4 millions de pratiquants par an, en hausse de 30% en 10 ans. Les parkings débordent, l'érosion des sols s'accélère, les rochers s'abîment, la faune est dérangée et les déchets augmentent. Le constat est le même sur les grands itinéraires de randonnée. Et à Chamonix, ce sont en moyenne l'été jusqu'à 300 personnes qui s'aventurent chaque jour sur la voie normale du Mont Blanc. Alors tout cela a conduit à la mise en place de mesures spécifiques. Par exemple, dans les Calanques de Marseille, des quotas de visiteurs ont été instaurés pendant la haute saison. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, la montagne chère au peintre Cézanne dans les Bouches-du-Rhône, sert certains sites d'escalade ont été fermés. Dans les écrins, des éco-gardes veillent au respect des lieux. Et dans certains territoires, la communication touristique est volontairement réduite pour freiner l'affluence.
En fait, la vraie question, Virginie, c'est pourquoi tout le monde va au même endroit ? Pourquoi cette fascination pour les mêmes spots ?
Exactement, Jérôme. La surfréquentation, c'est surtout la concentration de personnes sur le même itinéraire. Plusieurs raisons à cela. Il y a des voies ou des sommets forcément mythiques, liés à leur esthétisme, leur histoire. La montagne, c'est très romanesque. Chaque massif a quelque chose à raconter. On a envie de retrouver l'élan des pionniers et certaines ascensions continuent de se distinguer par leur envergure. Mais de plus en plus, nos goûts sont façonnés par les réseaux sociaux. Certains lieux deviennent à la mode simplement parce que leur image circule.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de se déplacer, on arrête de voyager, on arrête d'aller en montagne ?
Question cruciale. La montagne est un voyage. C'est une aventure et la découverte d'une géographie par le corps. Une sorte de fusion sauvage. Mais cela n'empêche pas pour autant de voyager différemment. Certains guides proposent des secteurs moins prisés, plus locaux, car la montagne reste vaste. Et puis, tous les lieux ne nous touchent pas de la même manière. Nous développons tous un rapport aux espaces qui nous est propre. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hartmut Rosa, et qui nous parle de résonance. La résonance, c'est l'instant où un paysage nous répond, où l'on sent que nous sommes touchés intérieurement par lui. L'essentiel ne serait donc pas de tout parcourir, tout voir, tout vivre, mais de savoir reconnaître les lieux qui comptent vraiment pour nous. Cette sélection est déjà une forme de sobriété. La montagne n'est pas un décor, elle a avant tout une relation qui, comme toute relation, demande de l'attention et du soin.
Merci Virginie Troussier et encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce micro. Chaque vendredi, je ne vous présente pas Frédéric Pommier, c'est une chanson. Frédéric, bonjour.
Bonjour Jérôme.
C'est une romancière qui est à votre micro aujourd'hui. Marie-Hélène Lafont, que l'on retrouve.
Marie-Hélène Lafont, lauréate de nombreux prix, qui a par ailleurs présidé le dernier jury du Mais Livre Inter. Et c'est une chanson des frères Jacques qu'elle a souhaité parler, l'un de leurs plus grands succès. La confiture, dont elle apprécie particulièrement le texte.
Déjà, c'est cette question. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain ? C'est un sommet métaphysique. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain ? C'est une question qui résume l'absurdité de notre être au monde.
Un dessert préparé par Marino, la confiture.
J'aime aussi leur rapport très frontal à la rime. Voilà. Beurre avec l'heure, par exemple. Et leur usage, très décomplexé aussi, de l'adverbe en ment. Parce qu'évidemment, l'adverbe en ment rime avec l'adverbe en ment. Or, l'adverbe en ment, quand on écrit, on sait qu'il faut s'en méfier. Moi, j'ai le tic de l'adverbe en ment. J'aime l'adverbe en ment. J'en ai enlevé énormément dans mes textes.
Vraiment, absolument, totalement. Voilà.
Et là, il y a par exemple irrémédiablement. Irrémédiablement aussi, c'est très métaphysique. Il y a quelque chose de métaphysique dans l'irrémédiable. Et notre condition est irrémédiable. Il y a une gravité. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une forme de gravité chez les frères Jacques. Peut-être est-ce dû au fait qu'ils sont en partie vêtus de noir, et qu'ils ont au fond des mines, des visages relativement graves. Ils sourient peu. Ils ont une sorte de sérieux, voilà. Moi, je les trouve sacerdotaux, les frères Jacques.
Est-ce que ça veut dire que quand vous les avez vus sur scène ou sur un plateau de télévision, vous avez eu l'impression d'assister à une forme de cérémonie ?
Totalement. Une cérémonie du corps et une cérémonie de la langue, une cérémonie du langage.
La confiture, ça dégouline, ça coule, coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain ? Bien sûr, on peut avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, elle s'incline, ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint de l'avant-bras.
1973 pour cette chanson, Frédéric.
Chanson qui soulève donc des questions métaphysiques pour Marianne Lafont, mais elle y trouve également une autre satisfaction.
C'est une chanson qui réhabilite la crème de marron. La crème de marron, c'est quand même très ringard, la crème de marron. Hein, c'est ça, voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère. C'est plus commun, mais ça tient bon. Et moi, j'aime la saveur de cette crème de marron. On sent le A proliférer, voilà. Hein, le R s'arrondir. Et ils ont une façon de lancer ça. Moi, j'aime la crème de marron. Et je trouve que ça la réhabilite totalement. C'est la crème de marron en majesté dans cette chanson. Pourtant, en dévolu à la confiture.
C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère. C'est plus commun, mais ça tient bon.
Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain?
Justement, non. Et c'est ça que j'aime. Que cette question soit suspendue comme ça. Dans le silence un peu interloqué et encore joyeux qui suit l'écoute de cette chanson et qui se répète pour moi systématiquement. Dès que j'entends cette chanson, si je l'écoute jusqu'au bout, je retrouve cet état comme ça, cet éclair de joie, une joie douce qui fait du bien.
C'est précieux.
Infiniment. C'est un trésor. Les frères Jacques sont un trésor.
Ça coule par les côtés, la confiture.
Les frères Jacques, la confiture, c'était donc Frédéric, le choix de Marie-Hélène Lafont.
Marie-Hélène Lafont, dont le dernier livre, Vie de Gilles, est paru aux éditions du Chemin de Fer.
Et pour les trous dans le pain, posez la question à Camille Cronier, à ses petits bateaux, elle sera très heureuse de vous répondre.
Elle
vous
répondra.
Merci Frédéric. À l'heure de refermer cette semaine de 13-14, il me faut remercier tous ceux qui y ont contribué à la rédaction en chef, Fabien Fourel, Estelle Schmitt et Lionel Thompson, assistés de Stéphane Rousset, Victorien Thomas, Nicolas Sabat, Swad Bellani et Sylvain Le Sage, je n'oublie pas nos équipes techniques.